Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Europe Soir, vos deux heures d'infos, de débat et de décryptage. Notre invitée ce soir à 18h20, elle est candidate tête de liste de la France Insoumise aux élections régionales en Ile-de-France et compte bien créer la surprise. Clémentine Autain sera avec nous dans quelques instants. Que propose-t-elle vraiment pour la région? On lui posera la question. 18h30, les polémiques du jour avec le débat des grandes voix. Un an de prison, dont 6 mois ferme, requis contre Nicolas Sarkozy dans la fameuse affaire Big Malion. Alors logique ou disproportionnée? On posera la question à nos débatteurs. 19h15, la carte blanche de la philosophe Juliette Funès. Et puis 19h20, grand débat ce soir sur la reprise économique qui se profile. Et si les Cassandres avaient eu tort? On nous prédisait un effondrement. Sauf que tous les signaux aujourd'hui sont au vert. Alors ce rebond sera-t-il durable? Faut-il maintenir le fameux quoi qu'il en coûte et les mesures de soutien qui vont avec? On en débattra avec nos invités. D'abord le journal avec Isabelle Millet. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
18h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
Je me suis pas foulée, après j'avais 16 à l'année, donc j'y suis allée, j'ai fait une petite intro et puis je suis partie après parce que je savais très bien que j'aurais pas pu avoir plus que la moyenne que j'ai eue.
L'épreuve du bac de philo aménagée à cause du Covid, du coup les candidats qui planchaient ce matin sont arrivés presque sans pression.
Le jury retiendra la meilleure des deux notes entre celle du bulletin scolaire et celle de l'épreuve d'aujourd'hui.
Et effectivement, bas les masques, c'est le retour des sourires et du rouge à lèvres. Le plaisir surtout de retrouver les visages de ceux que l'on croise dans la rue.
6 mois ferme requis contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion. Les procureurs ont souligné la totale désinvolture de l'ancien chef de l'État dans la gestion de sa campagne.
Non, je ne suis pas en campagne. Emmanuel Macron dans les Hauts-de-France, obligé de se justifier avant le premier tour des régionales.
Et puis le foot et les Danois qui jouent ce soir sans Christian Eriksen, victime d'un grave accident cardiaque. Les nouvelles du joueur sont rassurantes.
La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,20% à 6666 points.
La météo avec Anissa Haddadi, bonsoir.
Bonsoir Julien.
Les vigilants s'étendent.
Oui, actuellement nous avons 31 départements placés en vigilance orange orage. Ces départements vont du nord à l'Ariège, en passant par la Creuse ou encore la Seine-et-Marne. Les orages arrivent et ils pourront être violents ce soir. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est dans une atmosphère beaucoup plus détendue que les autres années que les candidats ont planché aujourd'hui sur l'épreuve de philo du bac, seule épreuve maintenue avec le grand oral.
Oui, plus détendue parce que les lycéens ont pour la première fois la possibilité de choisir entre leur moyenne de l'année sur la base du contrôle continu et la note qu'ils obtiendront à l'épreuve d'aujourd'hui.
Oui, c'est la meilleure des deux hein, qui sera conservée. Du coup, certains y sont allés la fleur au fusil, Jean-Luc Beaujon.
Oui, c'était un peu ça. Tout à l'heure, à la sortie des salles d'examen du lycée Descartes de Saint-Genis-Laval, près de Lyon, il n'y avait pas beaucoup de stress car les élèves ont bien compris que cette année, l'enjeu est beaucoup moins fort. Du coup, pas mal de lycéens ne sont pas restés longtemps à plancher, comme Alexia, qui elle est restée...
Une heure.
Ah oui.
Ah, une heure. Ah,
service minimum.
J'ai même entendu un petit peu. Non, franchement, j'ai dû écrire 30 minutes. Et après, oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je me suis pas foulée. Après, j'avais 16 à l'année. Donc, j'y suis allée, j'ai fait une petite intro et puis je suis partie après parce que je savais très bien que j'aurais pas pu avoir plus que la moyenne que j'ai eue.
Alors malgré tout, pour la plupart des terminales, il a vraiment fallu réfléchir et composer pour aller chercher une meilleure note. Emma, par exemple, a choisi le sujet numéro 3, sommes-nous responsables de l'avenir?
J'ai mis oui et non, j'ai fait thèse-antithèse. Dans le non, j'ai cité Spinoza, Descartes, pour dire qu'on était précédé par des causes qui nous déterminent. Et pour le oui, j'ai mis que on pouvait se libérer de ces causes, du coup avec le libre arbitre, la volonté, des choses comme ça. Et ça s'est bien passé.
Voilà, plutôt confiante Emma. Là où elle est plus inquiète, comme la plupart de ses camarades, c'est pour le grand oral qui démarre lundi et qui pour le coup est une épreuve totalement nouvelle et qui là va vraiment compter pour tout le monde.
Merci Jean-Luc Beaujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon.
Ça rappelle des souvenirs tout ça.
Bon ou mauvais?
Oui, j'ai eu 13 en philo.
Bien. En tout cas, pour ce qui est des sujets justement de ce bac philo 2021, il y en avait 3 au choix. Discuter, est-ce renoncer à la violence? L'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance? Ou bien sommes-nous responsables de l'avenir?
Nicolas Fellmann a demandé à Philippe Danino, professeur de philo au lycée Alexandre Dumas de Saint-Cloud, ce qu'il pensait de ces sujets.
On est sur des sujets plutôt classiques qui sont relativement clairs. Au programme, il y a des notions qui se retrouvent. Je pense par exemple en effet à la question de la connaissance de l'inconscient. C'est un genre de sujet qui a été souvent donné sous des formes un petit peu différentes. Hein. Peut-on connaître l'inconscient, etc., etc. Ce sont vraiment des questions générales que tout homme peut se poser et a pu se poser, mais qu'en effet nous pouvons avoir tendance à lire donc à la lumière de notre réalité à nous aujourd'hui. Par exemple, par rapport à sommes-nous responsables responsable de l'avenir. Bien entendu, on pourrait ici penser à l'écologie, au réchauffement climatique, etc. Mais il ne faut pas oublier non plus les enjeux plus larges de ce genre de questions, qui peut aussi concerner l'avenir de l'homme en général. De ce point de vue-là, si vous voulez, il y a une tonalité relativement classique de ces sujets.
Philippe Danino, prof de philo au micro européen de Nicolas Feldman, et noté que plus de 535 000 lycéens de première ont également planché aujourd'hui sur les épreuves anticipées de français.
Alors, ça pourrait presque être un sujet du bac. Se sent-on plus libre sans rien sur le nez et sur la bouche? Pour les Français, clairement, la réponse est oui.
Oui, première journée sans masque à l'extérieur. Et franchement, ça change tout, hein, Diane Berger.
Oui, et de nombreux Parisiens en ont aussitôt profité pour retrouver un semblant de vie normale. C'est le cas de Pierre et Selma qui déambulent, main dans la main, tout sourire, sans masque donc, sous l'arche de la Défense.
Je suis allé chez le coiffeur hier pour refaire ma barbe, etc. Donc voilà, pour être prêt pour le premier jour.
Quand j'ai appris l'info, j'étais très émue, heureuse et limite, je me sens bizarre de nous revoir.
Revoir les visages, les expressions des passants, c'est une sensation oubliée depuis des mois que retrouvent Ravi, Mina et Biba, deux amis venus profiter du beau temps. Leur masque, elles le portent toujours, mais autour du poignet.
On a bien inauguré la levée du port du masque. Et de sentir le vent, de voir les gens, de voir le sourire, l'expression. On est devenus des robots quand même. On articulait même mal, on n'arrive plus à parler normalement.
C'est vrai, on ne s'entendait plus.
Alors cet allègement des mesures sanitaires est vécu comme une libération pour beaucoup de Parisiennes et de Parisiens. Mais ils sont aussi beaucoup à confier leur étonnement quand ils croisent ceux qui choisissent au contraire de garder le masque dans les lieux où il n'est plus obligatoire.
C'est vrai qu'il y en a, merci.
Il y en a beaucoup.
Oui, oui. Merci, ça m'a étonné tout à l'heure. Merci Diane Berger.
Emmanuel Macron en Picardie aujourd'hui. Le président de la République poursuit son tour de France des régions. Déplacement sur le thème de la culture.
Ce matin, il a échangé avec des élèves et cet après-midi, c'est avec Fabrice Luchini qu'il s'est rendu dans la maison natale de Jean de La Fontaine.
Un président qui a par ailleurs répondu à ses adversaires qui le soupçonnent d'être en campagne à quelques jours des régionales, Jean-Rémy Baudeau.
Oui, ils sont nombreux à fustiger ces déplacements présidentiels à quelques jours des régionales. Celui qui attaque le plus frontalement, directement Emmanuel Macron, c'est Xavier Bertrand, en campagne pour sa réélection. Local de l'étape ici, le patron de la région Hauts-de-France a dénoncé ce matin, je cite, la confusion créée par ces déplacements. Réponse directe d'Emmanuel Macron sur le thème « Mon mandat dure 5 ans ».
Je l'ai dit dès le début, si les régionales comme les départementales sont maintenues, ça ne doit pas empêcher le gouvernement et le président de continuer à travailler. Parce que la situation du pays requiert d'être pleinement mobilisé. On ne peut pas être dans l'abstention du travail. Ensuite, les régionales, elles sont partout en France. Et comme ça ne vous échappe pas, je ne touche rien des sujets qui sont régionaux. Donc je n'interfère pas dans cette campagne, je continue simplement le travail pour la nation et nos compatriotes.
Voilà, Emmanuel Macron actuellement à Château-Thierry, accompagné de Fabrice Luchini. Il célèbre les 400 ans de La Fontaine, une pause comme une récréation. Pas question de politique ici, quoique ce matin, un enfant l'a interpellé sur quelques récents mauvais souvenirs.
Ça va la claque-claque et t'étais
sûr? Ah bah oui, ça va, c'est pas agréable. Hein.
Voilà, c'est pas agréable, une claque évidemment. Emmanuel Macron qui s'apprête à refaire un bain de foule dans les rues de Château-Thierry avec une sécurité nécessaire pour éviter justement une nouvelle gifle.
Merci beaucoup Jean-Rémy Baudeau qui suit donc ce déplacement d'Emmanuel Macron dans les Hauts-de-France.
Europe 1, Julien Bugier.
18h07, vous restez avec nous dans quelques secondes. 6 mois de prison ferme requis contre Nicolas Sarkozy, c'est l'affaire Big Malion.
Et puis l'Euro, le Danemark qui joue ce soir sans Christian Eriksen.
A tout de suite. La suite de votre journal sur Europe 1 avec le réquisitoire donc au procès Big Malion.
Oui, Nicolas Sarkozy et 13 autres prévenus jugés pour les dépenses excessives de la campagne présidentielle de 2012. De 18 mois à 4 ans de prison avec sursis ont été requis et 6 mois ferme contre l'ancien président de la République. Chloé Triomphe, les procureurs ont souligné la totale désinvolture de Nicolas Sarkozy.
Oui, et on ne peut pas dire que le choix de Nicolas Sarkozy de n'assister qu'à une seule audience le jour de son interrogatoire ait été apprécié par les procureurs qui en ont tiré ce constat. Visiblement, il ne regrette rien. Ce comportement de ne pas se considérer comme un justiciable comme les autres, de se placer hors de la mêlée, est à l'avenant de sa désinvolture durant la campagne. Les mots sont sévères et l'argumentaire qui suit sans concession. Il était le seul signataire et seul responsable de son compte de campagne, rappelle la procureure, mais il a signé les yeux fermés. Il a aussi, pour suite-elle, était parfaitement informé des risques de dépassement, mais il a donné des consignes contraires pour multiplier les meetings. Et la procureure de lister ces derniers, leur montant, avant d'énumérer sur un débit rapide la liste des postes de personnel pour un petit meeting, ça essouffle, conclut-elle avec sarcasme. Enfin, en comparant une campagne présidentielle à une compétition sportive de haut niveau, la procureure désigne les moyens illicites pour parvenir à la victoire, le dopage pour l'un, le financement illégal pour l'autre. Son collègue a conclu avec cette peine 1 an de prison dont 6 mois ferme au regard de la fonction de président de Nicolas Sarkozy et de son rôle éminent durant la campagne.
Chloé Triomphe qui suit donc pour Europe 1 ce procès Bigmalion.
Garde à vue prolongée pour Cédric Jubilard.
Interrogé depuis hier sur la disparition de sa femme Delphine dans le Tarn il y a 6 mois. Garde à vue prolongée également pour sa mère et son beau-père. Les enquêteurs ont relevé certaines incohérences dans le récit de la nuit de la disparition.
Le programme du jour à l'Euro de foot.
Tout à l'heure, l'Ukraine a battu la Macédoine du Nord 2-1 et depuis quelques minutes, le Danemark affronte la Belgique. Alors c'est un match particulier bien sûr puisque sans l'une des stars de l'équipe, Christian Eriksen, qui s'était effondré, hein, on s'en souvient avec ces images terribles, samedi dernier suite à un malaise cardiaque, les joueurs ont été très choqués. Simon Rubin, on a de ses nouvelles et il va mieux.
Oui, il va mieux, Christian Eriksen. Et d'ailleurs, vous arrivez au meilleur moment puisque dans ce match, les deux équipes s'arrêtent de jouer. 10e minute de jeu, le 10 comme le numéro de Christian Eriksen et tout le monde l'applaudit. Le public debout, standing ovation pour le joueur danois qui va donc effectivement mieux. Il est toujours en observation à l'hôpital. La cicatrisation va prendre du temps et les médecins vont lui implanter un défibrillateur automatique. Cela devrait permettre de prévenir toute récidive. Annonce hein, qui est faite aujourd'hui par la fédération danoise. Alors, Eriksen, 29 ans, se dit très heureux de cette issue. Pour l'heure, impossible de savoir s'il rejouera au football à haut niveau. Mais les chances sont quand même extrêmement minces. Alors, il y a toutefois un autre joueur à qui c'est arrivé. Il s'appelle Daley Blind. Il est néerlandais. Il jouera d'ailleurs ce soir avec sa sélection à 21h. Et lui aussi, il a un défibrillateur automatique. Mais pour le cas d'Eriksen, ça dépendra surtout de la nature de son problème cardiaque. Voilà pour le joueur. Et alors que l'hommage touche à sa fin du côté du match, eh bien ce sont les Danois, portés sans doute aussi par cette énergie, cette volonté de rendre hommage à leurs coéquipiers, eh bien les Danois qui mènent 1-0 face à la Belgique.
Merci beaucoup Simon Rubin. Et vous l'évoquiez, hein, ce soir, les Pays-Bas jouent à 21h contre l'Autriche.
Oui, et puis un mot de tennis. Hein, Raphaël Nadal renonce à participer au prochain tournoi de Wimbledon ainsi qu'aux Jeux Olympiques de Tokyo afin, dit-il, de laisser son corps récupérer.
L'objectif, explique-t-il, est de prolonger sa carrière et de continuer à faire ce qui le rend heureux, c'est-à-dire jouer au plus haut niveau. Raphaël Nadal qui n'a que 35 ans. Et puis en cyclisme, Benjamin Thomas, sacré champion de France du contre-la-montre aujourd'hui pour la 2e fois.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour le rappel de l'info. La météo.
La météo avec l'assurance habitation BNP Paribas. L'assurance habitation qui s'adapte à vos besoins. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change.
Oui, la météo Anissa avec encore beaucoup d'activités orageuses actuellement sur le pays.
Oui, nous avons ce soir, là, à cette heure-ci, 31 départements placés en vigilance orange. Alors ça va du sud, hein, de l'extrême sud, l'Ariège, jusqu'au département du Nord, en passant par la Creuse ou encore la Seine-et-Marne. Alors ce soir, du sud-ouest au bassin parisien, les orages seront localement forts, ils seront nombreux. Sur la région toulousaine, prudence, hein, si vous nous écoutez en Occitanie, les rafales de vent pourront atteindre en plus des orages les 100 km/h. Cette nuit, les orages vont se calmer à l'ouest, vous allez retrouver un temps calme et sec demain matin. Mais les orages arrivent sur les Pays de la Loire, la région parisienne, la Normandie et les Hauts-de-France. Dans toutes ces régions, la nuit sera agitée. Demain matin, du centre aux Hauts-de-France, en passant là aussi par la région parisienne, le temps reste très orageux pour se consacrer uniquement sur le nord demain après-midi où là, pareil, les orages seront forts et accompagnés de chutes de grêle. Les températures, elles sont stationnaires demain matin avec 14 à 23 degrés. En revanche, dans l'après-midi, le thermomètre s'effondre. Il va faire frais à cause des orages. Seulement 16 degrés à Cherbourg, 20 à Rennes, 23 à Biarritz. Ailleurs, toujours de la chaleur. 27 pour Paris, 29 à Clermont-Ferrand, 31 degrés à Metz, 33 à Lyon et 34 à Strasbourg où il fait toujours très chaud sous le soleil bien. Dans l'est de la France.
Attention aux orages, mais un peu très cher, ça va faire du bien.
Ah oui, à l'ouest, ça va faire beaucoup de bien. Je vous rappelle que le Rhône est toujours placé en vigilance orange canicule hein, du côté de Lyon.
Merci Anissa, à tout à l'heure, 18h30.
Europe 1, Julien Bucher.
Restez avec nous dans quelques secondes. Que propose vraiment Clémentine Autain pour l'Île-de-France, dont elle est la candidate tête de liste régionale pour la France insoumise? Eh bien, on lui posera la question. A tout de suite. Et notre invitée ce soir à 18h17, elle est donc candidate tête de liste France Insoumise aux élections régionales d'Île-de-France et compte bien créer la surprise dimanche prochain. Bonsoir Clémentine Autain.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous dans Europe Soir. Alors je vous pose la même question que j'ai posée à vos adversaires. En quelques mots, pourquoi voter pour vous?
Parce que je propose un changement en profondeur du modèle de développement pour l'Île-de-France qui va permettre d'améliorer la qualité de vie des franciliennes et des franciliens. Vous savez, aujourd'hui, Valérie Pécresse, au fond, elle oriente la politique régionale vers un objectif, la concurrence, l'attractivité, la compétitivité. Moi, je veux que l'on parte
Mais c'est important, l'attractivité.
Ah, attendez, je vais vous donner un exemple. Moi, je veux que l'on parte des besoins des franciliens et qu'on y réponde. Je vous prends un exemple concret. Le Charles de Gaulle Express, vous savez, c'est ce train qui va de Paris à Charles de Gaulle pour la modique somme de 24 euros le trajet.
Oui.
2 milliards sont investis là-dedans.
Et c'est pas bien ?
Eh bien, écoutez, je pense que la priorité, c'est de permettre aux gens, millions de personnes, qui chaque jour prennent le RER B, de pouvoir le faire dans des conditions normales.
Donc,
moi, ma priorité. Et à un moment donné, il faut faire des priorités. Oui. Et ma priorité, ce seront les transports du quotidien.
Parce que
je vous prends cet exemple.
Sur ce point, Clémentine Autain, du transport, le Charles de Gaulle Express, c'est un projet important, mais le tourisme est très important pour l'Île-de-France. Je regardais les chiffres, là, 38 millions de touristes en 2019, grâce à l'affluence des Japonais, des Américains, du tourisme d'affaires. Ça rapporte 15 milliards d'euros de revenus pour Paris, pour la seule ville de Paris. Donc ce Charles de Gaulle Express, il permet aussi de rendre Paris attractif pour ces touristes-là.
Précisément, je pense que la région, institution publique, a vocation à d'abord servir les intérêts des franciliennes et des franciliens.
Oui. Voilà. Et que, mais les touristes, ils créent de l'emploi pour les franciliens.
Bah, écoutez, ça se discute. Regardez, il y a un secteur qui a mieux résisté que tous les autres, du point de vue de l'emploi, c'est l'économie sociale et solidaire. Je veux développer cette économie-là. D'abord, elle n'est pas délocalisable. Et ensuite, elle permet de répondre à des besoins véritables des franciliens et des franciliennes. Quand Valérie Pécresse a décidé, au nom de la compétitivité et de l'attractivité, de donner sur la mandature 20 millions d'euros à des entreprises du CAC 40 qui n'ont absolument pas besoin de la région pour reverser en plus des dividendes ou pour faire leur activité.
C'est vraiment une vision elle a même très
donné,
différente. Hein.
Bien sûr, elle a même donné, Valérie Pécresse, 1 million d'euros à Renault, qui est une entreprise qui vient d'annoncer la suppression en Île-de-France de 2400 postes. Avec moi,
alors, il y aura des critères... Alors, on va peut-être parler de vous plutôt que de Valérie Pécresse.
Eh bien, je vous dis, avec moi, justement, avec moi, il y aura des critères sociaux, notamment en termes d'emploi et environnementaux, pour toutes les subventions qui sont données au secteur économique, aux entreprises.
Alors, vous dites vouloir, sur la question des transports, puisqu'on en parle, rendre les transports gratuits pour les jeunes et les précaires. Et en même temps, vous dites vouloir rénover les lignes du transport du quotidien. On l'a évoqué, hein, toutes les voies, par exemple, et les rames des lignes RER, les gares aussi, d'ici 2030.
Oui.
Combien ça coûte et où on trouve l'argent ?
Alors, combien ça coûte bon, par exemple... La gratuité pour les moins de 25 ans, c'est 400 millions d'euros à peu près. Sur un budget total pour les transports en Île-de-France de plus de 10 milliards, je pense que ça, on sait les trouver. Au-delà, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident si on ne veut pas rogner sur les investissements nécessaires que je veux. On a parlé des RER B, C, D, mais je veux aussi parler des lignes de tramway qu'il faut prolonger, des flottes de bus, notamment en grande couronne, d'un métro circulaire.
Il faut de l'argent pour tout ça, ça coûte cher.
Exactement, exactement. Mais ça se négocie avec l'État. Vous savez, quand on fait le budget de la région, il est rarement seul. Il se fait avec les collectivités et avec l'État. Donc il faut négocier, mais il faut savoir quelles sont les priorités. Oui. Mes priorités, ce sera le transport du quotidien, et notamment en banlieue et en grande couronne.
Donc, pour répondre à ma question tout à l'heure, le Charles de Gaulle Express, on l'arrête, on stoppe le projet.
Vous savez qu'aujourd'hui, les travaux nuisent encore plus aux usagers du RER B. Il y a un peu le problème.
Donc
oui, je pense que ce n'est pas la priorité.
On arrête en cours de route.
Je pense que ce n'est pas la priorité, et la présidente de région que je serai s'opposera au Charles de Gaulle Express.
Bien. Vous êtes aujourd'hui à peu près 10%, 11% des intentions de vote, comme Julien Bayou, des Verts, comme Audrey Pulvar, candidat de PS. Alors, je sais qu'on vous pose souvent la question, mais on se dit un peu naïvement, pourquoi ne pas avoir fait liste commune ? Ça aurait créé une dynamique, et ça aurait permis de vous donner un élan peut-être pour le second tour, plutôt que de vous disputer sur les plateaux télé. Pourquoi ça n'a pas été possible,
d'abord,
ça ?
D'abord, je ne trouve pas qu'on se dispute beaucoup sur les plateaux télé, c'est pas vrai. Vous avez regardé le débat
de LCI. Oui, j'ai regardé le débat.
Je ne trouve pas que tous les trois on se soit beaucoup disputé, c'est pas
le,
vrai.
Le curseur était plus sur Valérie Pécresse, c'est vrai.
Voilà, moi, en tout cas, pour ma part, vous n'avez entendu aucun
mot
désagréable pour
pourquoi
mes deux concurrents qui seront, je l'espère et je le souhaite activement, mes partenaires à partir de dimanche soir.
On en est sûr de ça ?
En tout cas, c'est ma volonté. Moi, je
si
m'y engage clairement.
Si vous arrivez en tête, ils se sont engagés à se ranger derrière vous ?
Si je suis en tête, je créerai les conditions du rassemblement des trois listes avec Julien Bayou et Audrey Pulvar. Je ne peux pas être plus claire et je l'ai dit dès ma première interview. Pourquoi ne l'avons-nous pas fait plus tôt ? Il faudrait d'abord poser la question à Julien Bayou qui a voulu uniquement le rassemblement du pôle écologiste, à Audrey Pulvar qui s'est engagée en s'adressant à tout le monde à gauche, sauf aux insoumis. Donc voilà, la situation est comme ça. Maintenant, le vote est dimanche. Et je veux vraiment donner de l'espoir aux électeurs de gauche qui peuvent être un peu, en effet, comme vous dites, attristés qu'on n'arrive pas dès le premier tour à talonner Valérie Pécresse, leur dire que à nous trois, Nous sommes à plus de 30. Valérie Pécresse est autour de 30.
Alors,
les seuls qui pouvons disputer la région à Valérie Pécresse, c'est nous.
Alors, deux remarques. D'abord sur son bilan, puisque vous parlez beaucoup de Valérie Pécresse.
C'est normal, c'est la présidente de la région.
C'est vrai. J'ai regardé le détail des chiffres et j'ai vu que 68% aujourd'hui des Franciliens étaient plutôt contents ou très contents de son bilan. Mmh. Ça veut dire que tout n'est pas acheté.
Non, ça veut dire aussi que les Franciliens et Franciliens ne connaissent pas forcément le bilan. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que les Franciliens savent que Valérie Pécresse a divisé par 2,5 le budget du logement ?
Oui.
Non, ils ne le savent pas.
Oui.
Ou alors
mais
ils le
si
savent parce que j'arrête pas de le dire.
Sont satisfaits. C'est un élément.
Je ne le crois pas. Il y a 750 000 demandes de logement social aujourd'hui, au moment où je vous parle. Le mal logement est un des plus gros problèmes en Île-de-France, notamment lié à la cherté des prix.
Oui.
Vous savez qu'à Paris, le prix au mètre carré, c'est 10 500 euros.
Oui.
Donc on est dans une situation
et ça,
complètement délirante.
C'est la faute de Valérie Pécresse.
C'est en partie. Sur le logement social, oui.
La mairie de Paris n'y est pour rien.
Ah non, moi je ne dis pas que la mairie de Paris n'y est pour rien. Elle fait des efforts en matière de construction de logements sociaux, mais ce que je veux dire là, c'est la régionale, l'élection
oui.
régionale, et Valérie Pécresse est opposée au fond, au logement social, qu'elle stigmatise parce qu'elle croit que le logement social signifie la pauvreté, alors que pour moi, le logement social, c'est pouvoir se loger dans un habitat qui est un habitat
alors,
digne et accessible.
Clémentine Autain, sur la dynamique de la gauche, je suis remontée un peu en arrière et j'ai vu qu'en 98, la région Île-de-France était tenue par la gauche. En 2015, le candidat PS Claude Bartolone. En 2015, il n'y a pas un siècle, il y a 6 ans.
Il faisait
Claude
25%.
Bartolone faisait plus de 40%.
Au second tour, et 25%
plus
au premier.
Plus de 40% au second tour. Que s'est-il passé depuis ?
Bah d'abord, il n'est pas dit que nous ne ferons pas 40% au second tour, encore. Parlons au moins du premier tour.
Oui.
Et là où vous avez raison, c'est que Claude Bartolone faisait pour le Parti Socialiste 25% et qu'en effet, aujourd'hui, la candidate du Parti Socialiste, Audrey Pulvar, est
Crédité
autour de 10%.
9-10%, oui.
Donc voilà, c'est une réalité. Nous, on faisait 6,5%, je suis estimée à plus de 10%. Bon, voilà, nous progressons et les socialistes reculent de façon, en effet, très forte. C'est un constat, je fais comme vous.
Ce matin sur Europe 1, je voulais vous faire réagir à cela. Valérie Pécresse appelait, je cite, la gauche républicaine, social-démocrate, celle de Clémenceau et de Jaurès, à faire une cloison étanche avec l'ultra-gauche de Jean-Luc Mélenchon, en l'occurrence vous. Qu'est-ce que vous lui répondez en quelques mots ?
Je comprends bien le problème de Valérie Pécresse, c'est que l'union de ces trois listes de gauche, c'est la condition pour l'emporter face à elle. Donc elle essaye d'enfoncer des clous maladroitement, parce que c'est un peu grossier ce qu'elle fait. Je le comprends, c'est une tactique. Mais sur le fond, ce qu'elle raconte, je ne comprends même pas ce qu'elle raconte. Parce qu'elle a le mot République à la bouche du matin au soir, vous avez remarqué, elle fait des grandes leçons. Elle est chaque jour un peu plus une passerelle vers l'extrême droite par les idées qu'elle défend, par le discours qu'elle tient.
L'extrême droite.
Ah bah oui.
L'extrême
oui, d'ailleurs, sa dernière interview, je viens de voir là, probablement sa dernière grande interview de campagne est donnée à Valeurs Actuelles. Et en effet, Valérie Pécresse, par des mesures qu'elle a prises, des propos qu'elle a tenus, marche dans les pas de l'extrême droite. Je
vous
le dis très tranquillement.
Qu'elle est proche de l'extrême droite.
Sur les idées, je pense qu'elle
sur
prépare,
les idées.
Elle valide des présupposés et elle reprend des idées de l'extrême droite. D'ailleurs, ce n'est pas que moi qui le dis. Jordan Bardella, à un moment donné, il avait eu ce terrible bon mot, si j'ose dire. Il lui reprochait de lui piquer ses fiches. Et en effet, je pourrais lister plein de sujets.
Bien.
Par exemple, quand elle
mais ça,
propose...
Mais j'ai entendu, vous lui avez répondu. Une question plus générale, Clémentine Autain, sur le climat actuel du débat politique. Je voulais vous entendre là-dessus. Violent, hystérisé, c'est la gifle au président. C'est la vidéo du youtubeur d'extrême droite qui a appelé au meurtre de militants LFI. Alors, le registre n'est pas tout à fait le même, mais on a aussi vu une vidéo ressurgir de vous bastonner un mannequin à l'effigie d'Emmanuel Macron avec d'autres militants. C'était il y a un an. Pourquoi l'avoir fait ?
Comparaison n'est quand même pas raison. Papacito, non, je veux juste quand même, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, donc
Papacito... J'ai précisé, ça n'est pas le même registre.
Ça n'a quand même rien à voir.
Ça participe à un climat.
Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que encore depuis hier, vous avez eu des agressions à l'égard d'Alice Coffin, à l'égard de candidats, de plusieurs candidats, en Ile-de-France y compris, de gauche, en particulier insoumis. À chaque fois, ces violences concrètes, ce passage à l'acte, il provient de franges d'extrême droite.
Mais
dire les choses, franchement.
Est-ce que la France insoumise n'a pas aussi, dans le climat actuel, sa part de responsabilité ? On repense évidemment à Jean-Luc Mélenchon. Vous qualifiez-vous l'époque de pré-fascisme ?
Oui.
C'est un mot, un mot fort.
Oui, je l'assume.
Et Jean-Luc Mélenchon, quand il s'en prend aux journalistes...
Mais qu'est-ce qui est violent dans le fait de dire ça ? Excusez-moi, quelle est la violence de dire que nous sommes dans une société pré-fasciste ?
Mais pas vous, vous faites un constat.
Oui.
Mais quand Jean-Luc Mélenchon appelle à pourrir la vie des journalistes,
Ça participe
à un climat.
Écoutez, ce sont les propos de Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, je vous redis que la menace pour la République et la violence avec les passages à l'acte, aujourd'hui, faites attention, regardez bien au bon endroit, c'est l'extrême droite. L'année prochaine, celle qui est aujourd'hui créditée d'un score le plus haut qui pourrait l'amener au pouvoir,
oui.
C'est Marine Le Pen. Marine Le Pen est un danger pour la République. Donc du matin au soir, on pèse et on sous-pèse les propos de Jean-Luc Mélenchon. Nous, ce que nous avons fait, écoutez, excusez-moi, on est un mouvement féministe. Moi, je suis féministe. Hein, donc oui. Les féministes, vous m'accorderez au moins ça, les féministes n'ont jamais fait aucun mort du côté des oppresseurs. Si jamais de notre vie. Nous sommes un mouvement pacifiste, oui. S'il en est. Et d'ailleurs, tout le monde ferait bien d'en prendre un peu de la graine parce que c'est une vraie culture
une
politique.
Si par le plus grand des hasards, l'un des trois partis de gauche n'était pas au second tour, est-ce que vous appelleriez, en cas de duel avec Jordan Bardella, à voter pour Valérie Pécresse?
Écoutez, jusqu'à demain soir minuit, je me battrai bec et ongles pour passer la barre des 10% et pour mener la gauche non seulement au second tour, mais à la victoire. Et je ne veux pas, pour l'instant, me poser les questions que je n'ose imaginer.
Bien. Merci Clémentine Autain d'avoir été ce soir
avec
nous. Merci
à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous dans quelques secondes, le rappel de l'info et puis le débat des grandes voix. On reviendra sur cette réquisition, un an de prison dans 6 mois ferme contre Nicolas Sarkozy dans le procès Big Malion. A tout de suite. Le rappel de l'info avec Isabelle Millet.
Et 6 mois de prison ferme requis contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion à l'encontre des 13 autres prévenus. Des peines de 18 mois à 4 ans de prison avec sursis ont été requises. La vaccination des soignants dans les EHPAD est insuffisante. Le ministre de la Santé menace de la rendre obligatoire d'ici la fin de l'été. Emmanuel Macron en Picardie aujourd'hui, déplacement sur le thème de la culture. Ses adversaires le soupçonnent d'être en campagne à quelques jours du premier tour des régionales. Faux, leur répond le chef de l'État qui assure ne pas évoquer les sujets régionaux. Alstom remporte une commande d'€1,4 milliard pour fournir 100 trains régionaux au Danemark. Le Danemark qui joue actuellement contre la Belgique. Les deux pays ont brièvement interrompu tout à l'heure leur confrontation à l'euro pour prendre part ensemble à des applaudissements dans le stade de Copenhague en hommage au Danois Christian Eriksen après l'immense frayeur de son arrêt cardiaque en plein match samedi. Le Danemark qui pour l'instant mène 1-0.
Merci Isabelle, à tout à l'heure 19h pour un point complet sur l'info. La météo avec Anissa Dadis, une nuit orageuse qui s'annonce peu.
Oui, nous avons 31 départements du sud-ouest jusqu'au nord placés en vigilance orange actuellement. Vigilance orange aux orages, évidemment, quasiment toute la moitié ouest du pays. Alors attention, hein, ces orages sont forts avec une forte activité électrique et de forts cumuls de pluie. D'ailleurs, Julien, les départements de la Charente-Maritime, de la Gironde, des Landes et des Deux-Sèvres, donc ces départements côtiers sauf les Deux-Sèvres, sont en plus de la vigilance orange placés en vigilance orange inondation parce qu'on attend des cumule de pluie jusqu'à 80 mm. Près de la Garonne, on attend cette nuit des rafales de vent jusqu'à 100 km/h. L'activité orageuse devrait durer jusqu'à dimanche. Les températures, elles sont stationnaires demain matin. Toujours très chaudes à l'est demain après-midi sous le soleil et bien plus fraîches sur la moitié ouest.
Merci Anissa.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Les grandes voix du jeudi avec ce soir à mes côtés, la communicante politique Émilie Zapalski. Bonsoir Émilie.
Bonsoir Julien.
Michel Cotta, bonsoir Michel.
Bonsoir.
Et Marion Moore, grand reporter au service politique du Figaro. Bonsoir Marion.
Bonsoir.
Alors d'abord, l'info de cette fin de journée, un an de prison dont 6 mois ferme, requis donc contre Nicolas Sarkozy devant les tribunaux, c'est l'affaire Big Malion. Il lui est reproché d'avoir laissé filer les dépenses, 20 millions d'euros de dépassement du plafond autorisé. Alors pour l'instant, ça n'est que les réquisitions. Et un peu avant cela, ce matin, Jean-François Copé critiquait la défense de l'ancien chef de l'État avec ces mots.
C'est Nicolas Sarkozy, il a choisi une stratégie de défense qui est en vérité intenable. Intenable, puisqu'elle consiste à tordre la réalité des faits, expliquer que ce n'est pas lui mais les autres. Il a fait ça d'ailleurs pour d'autres affaires qui le concernaient.
Il y va Jean-François Copé, Marion Maury, hein.
Oui, visiblement, les deux hommes ne sont plus du tout amis, puisque Nicolas Sarkozy aussi, quand il était à la barre du tribunal mardi, chargeait aussi un peu Jean-François Copé. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est quand même un réquisitoire assez sévère,
oui.
Sachant que Nicolas Sarkozy est mis en cause, non pas pour corruption, mais pour dépassement du plafond de campagne, de la campagne présidentielle.
Avec un élément important, les procureurs ont souligné la désinvolture de l'ancien président de la République dans le déroulé du procès. Il était au courant des risques de dépassement. C'est ce qu'ont dit les procureurs leur réquisitoire, Émilie Zapalski.
En effet, un réquisitoire sévère, mais un réquisitoire à la hauteur de cette affaire. C'est-à-dire qu'on a besoin de marquer le coup. Et encore une fois, c'est qu'un réquisitoire. On ne sait pas ce qui va se passer au final. On se souvient quand même de Cahuzac, qui a fini avec un bracelet en Corse, un bracelet au pied. Il y a quelque chose de l'ordre d'un besoin de marquer le coup, de symbole vis-à-vis de ces hommes politiques qui parfois se permettent des choses quand même au-delà de la raison, au-delà de la légalité, judiciairement parlant, c'est pas possible. Alors oui, c'est un dépassement seulement, mais c'est quand même ça, c'est quand même quelqu'un qui a ce rôle politique. On ne peut pas laisser passer ça. On a besoin dans la société de voir ce type de symbole et de coup marqué vis-à-vis de ces politiques.
Alors, le président de la République, il s'est défendu. Hein. Il a dit « J'étais président, chef du G20, dans la campagne, je dirigeais la stratégie politique, alors l'organisation des meetings, la sono, les éclairages, je n'avais pas que cela à faire. » Michel Cotta,
c'est pour ça que Jean-François Copé n'a pas tort de dire que sa défense est effectivement une défense élastique et trop... improbable, quoi.
Oui. Bon, bon. Déjà.
En revanche, il s'agit effectivement d'un dépassement de campagne et de frais qu'il a déjà remboursés. Hein, il a effectivement lancé le Sarko-gate pour le Sarko-ton.
Le Sarko-ton, oui.
C'est d'ailleurs été un Sarko-gate.
C'est un bon lapsus.
Le Sarko-ton, donc, pour réunir l'argent. Oui, moi, je trouve ça quand même très, très sévère. Oui. Pour un ancien président, mais je trouve encore plus sévère les mots qui ont été employés. Oui. Au fond, maintenant, un réquisitoire, bon, 6 mois de prison ferme, on sait qu'il ne les aura pas. Enfin, on pense qu'il ne les aura pas. Mais je trouve que c'est surtout les mots choisis qui ont été vraiment très cruels. Et puis aussi, le deuxième aspect, c'est que, on le sait, dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, les gens pensent que c'est Jean-François Copé qui a largement ouvert ses dossiers. Oui. Avant l'affaire. Et au fond, c'est une vengeance. Mais une vengeance qui va tourner mal pour les deux.
Est-ce que le chef de l'État et le candidat, surtout, qu'il était, on connaît la force de Nicolas Sarkozy dans ses moments de campagne, est-ce qu'il pouvait ne pas être au courant de tout cela, quand même, Marion Mourgue? Vous allez me dire, c'est difficile à dire, je ne connais pas le dossier.
Non, c'est sûr que Nicolas Sarkozy fait toujours très attention à son entourage et à qui il décide quoi. Et il dit souvent qu'il a la mémoire des détails parce que justement, il regarde tout et c'est à la fois un hypermnésique et quelqu'un de très concentré sur les dossiers. Donc on peut imaginer qu'il était au courant de beaucoup de choses. Après, est-ce qu'il était rentré dans le détail de l'organisation, du choix de la salle, du coût de la salle?
Oui.
Là, c'est vérité contre vérité.
Oui, toute la question est de savoir si quand il signait les frais de campagne, on lui disait « attention, on est en train de dépasser ».
Oui, parce que les autres avaient tellement peur de lui, il faut dire que c'est vrai que c'est quelqu'un qui physiquement fait peur, y compris à ses équipes. Et peut-être se sont-ils dit « bon, on ne rentre pas dans les détails, surtout on rentre pas, on dit on dépasse ». Mais de combien ?
Bien, on suivra la décision finale. 18h38, merci pour cette première réaction. On passe au régional, évidemment, avec le déplacement aujourd'hui d'Emmanuel Macron, qui fait beaucoup parler. À tout de suite. Et on s'intéresse donc dans les grandes voies du jeudi au régional avec ce déplacement d'Emmanuel Macron aujourd'hui qui fait, je le disais, beaucoup parler dans les Hauts-de-France, sur les terres évidemment de Xavier Bertrand. Un déplacement qui s'inscrit, nous dit-on, dans son tour de France des territoires, mais certains y voient une campagne cachée qui ne dit pas son nom. Alors le président de la République a réagi à ces critiques tout à l'heure.
Si les régionales comme les départementales sont maintenues, ça ne doit pas empêcher le gouvernement et le président de continuer à travailler. Parce que la situation du pays requiert d'être pleinement mobilisé. On ne peut pas être dans l'abstention du travail. Et attends. Ensuite, les régionales, elles sont partout en France. Et donc, j'étais la semaine dernière, la semaine d'avant, dans d'autres départements, je continuerai. Et comme ça ne vous échappe pas, je ne touche rien des sujets qui sont régionaux. Donc, je n'interfère pas dans cette campagne, je continue simplement le travail pour la nation et nos compatriotes.
Oui, à ceci près qu'on pourrait lui rétorquer que les Hauts-de-France est une région particulière. Il y a 5 ministres qui sont engagés dans la campagne des régionales. Et Xavier Bertrand, on le sait, est un potentiel adversaire pour la campagne de 2022 du chef de l'État. Alors, est-ce qu'il interfère dans la campagne régionale, de votre point de vue, Émilie Zapalski?
C'est intéressant son expression. Il a dit qu'il n'intervenait pas sur tout ce qui est régional. Il reste sur national. Et c'est l'inverse qui se passe. Les élections régionales, elles sont très nationalisées, finalement. Puisque là, on est en Hauts-de-France, avec un futur, peut-être, adversaire pour la présidentielle. Donc, ce n'est pas un hasard. Moi, j'ai l'impression, surtout, qu'il veut capitaliser au maximum sur cette séquence, qui est déjà parallèlement au son Tour de France. C'est très positif. Hein. Il y a une espèce d'euphorie de la société. On ouvre les terrasses. On n'a plus le masque, là, depuis aujourd'hui à l'extérieur, plus de couvre-feu, il a fait des cadeaux, enfin en tout cas je ne sais pas si c'est lui, mais en tout cas il y a des cadeaux qui ont été faits, Roland Garros, plus de 23 heures d'un coup, le couvre-feu c'est quand même un peu plus tôt que prévu, donc il y a cette séquence formidablement positive et Emmanuel Macron il veut être là-dedans. Moi la question que je me suis posée, c'est toujours un petit peu le côté négatif malheureusement, c'est un peu, là il en profite parce que c'est avant l'été, on sent qu'il y a les prémices de cette tension sociale, hein. Il y a les grèves qui commencent à SNCF début juillet, on entend un appel à la grève. La rentrée qui risque d'être difficile sur le plan d'emploi social, peut-être un réveil gueule de bois, hein, plus compliqué. Il en profite énormément là. Et en plus, il n'est pas officiellement candidat. Là, il remet son titre en jeu, mais sans le dire véritablement. Donc, c'est tout positif pour lui.
Bien. Michel Cotta, c'est normal que Xavier Bertrand il soit pas content. Il dit, Xavier Bertrand, c'est un président de la République en campagne, comme moi, mais moi, je le dis. Je joue la carte de la transparence et de la vérité. Je demande au président qu'il assume également qu'il est en campagne.
Mais je dois dire que l'argument donné par Emmanuel Macron... Je ne parle que des choses nationales, mais tout le monde ne parle finalement que des choses nationales, sauf dans les débats où ils sont tous les sept et ils parlent des transports naturellement, parce que c'est leur boulot, mais tous les candidats. Mais, donc c'est difficile de dire que le président de la République n'intervient pas dans la campagne, mais ça ne met pas en cause votre théorie, qui est sûrement la bonne, qui est, oui, maintenant que ça va bien, autant en profiter, on s'est assez embêté pendant deux ans, autant j'en ai pris plein la figure pendant deux ans, disons au moins que c'est fini et que j'ai le droit de mettre fin à un couvre-feu.
Est-ce que ça peut avoir un effet sur le vote, Marion Mourgue ?
En tout cas, il est, c'est vrai, il est extrêmement présent et sur des sujets très différents. Donc, il est dans l'esprit des Français, que ce soit négativement ou pas.
Et puis, un peu, pardonnez-moi, un peu à la cool. C'est-à-dire que la séquence avec Lucchini, c'est plutôt sympa, c'est plutôt bon enfant.
C'est son domaine.
Et c'est son domaine.
Et c'est vrai que je rejoins ce qui a été dit, mais il enchaîne les séquences bon enfant et plutôt sympa, que ce soit sur le masque, le kini. Enfin, donc il installe ce climat d'un personnage qui est au-dessus de la mêlée, qui peut parler autant qu'il veut sur tous les sujets et qui parle de choses positives, puisqu'on sait aussi que les mauvaises nouvelles, c'est plutôt son Premier ministre qui les annonce. Donc oui, il fait campagne, mais finalement tous les présidents l'ont aussi fait avant lui. Je veux dire, il n'est pas le seul à avoir pratiqué ça. Nicolas Sarkozy et François Hollande le faisaient. Peut-être que ce qui change, c'est le temps de parole, mais en tout cas, il suit
Michel
ce qui s'est fait.
Non, je pensais que oui, la campagne entre, il saute les intermédiaires en quelque sorte. Il saute. Il considère que Xavier Bertrand n'aura qu'une importance numéro 3 éventuellement, et que au fond, la campagne, elle s'installe déjà et il l'installe déjà entre Marine Le Pen et lui. Oui. Il saute l'obstacle des régionales et des départementales. Voilà. Oui. Il est déjà en
prend un peu d'avance.
Il prend des risques, hein, parce que si une région, au hasard, PACA, basculait pour les Rennes, la situation ne serait pas forcément la même. Non, simplement, je tenais à souligner, en effet, il est comme un boxeur, il est très bon dans le combat. On se souvient de sa campagne, de sa campagne très forte, hein, de 2017. Il est très bon dans l'expression.
Express, vous alliez dire.
Ouais, express, mais oui, mais c'est vrai aussi, un peu quand même. Hein, c'était un coup de tonnerre, d'un coup, il débarquait. Et on le revoit dans cette expression beaucoup plus simple, beaucoup plus directe, beaucoup plus concrète, qu'il a du mal à tenir quand il est dans sa posture et dans sa stature de président. On le voit très fort quand il a ce challenge. Il est bon. Après, est-ce que ça tiendra sur toute la route? Parce qu'il y a quand même la réforme des retraites qui est un petit peu là en toile de fond. Il y a d'autres choses comme ça.
Oui,
mais
ça.
Ça peut aussi envenimer son style.
Mais je rebondis juste sur ce que vous disiez, Émilie. Le fait justement de dire « je ne fais pas campagne », c'est aussi une manière de prendre un peu distance avec les résultats de dimanche, qui de toute façon ne seront que mauvais pour lui et pour La République En Marche. Alors, ils peuvent être particulièrement mauvais, par exemple, si la PACA tombe dans les mains du Rassemblement National, mais ils ne peuvent pas être bons puisque La République En Marche, a priori, ne gagnera pas.
Mais même Val de Loire, il peut y avoir une surprise.
Val de Loire, mais aussi en Franche-Comté.
Il peut y avoir une surprise.
Mais il y aura aussi besoin des voix de la droite. Donc c'est pas seul sur l'étiquette En Marche.
Alors 18h45, on marque une pause. On va continuer, de parler des régionales avec un phénomène qui inquiète beaucoup, l'abstention qui pourrait être record. On annonce jusqu'à 60% d'abstention au premier tour. À tout de suite. La suite du débat des grandes voix du jeudi. Alors, c'est un sondage, effectivement, je le disais juste avant la pause, qui pourrait créer des surprises dimanche. Entre 59 et 64% des électeurs pourraient s'abstenir lors du premier tour des élections régionales dimanche. C'est ce qui ressort d'un sondage ELAB. Ce serait un niveau record, et notamment chez les plus jeunes. Alors, qui dit abstention record, dit déséquilibre dans les intentions de vote, dans les sondages. Mais d'abord, sur cette abstention, comment vous l'expliquez, Michel Cotta?
Je dois dire que je ne me l'explique pas aujourd'hui. Parce que justement, on est dans une phase plus gaie.
Il y a plein d'éléments. Il n'y a pas que le rejet des politiques. Il y a aussi le beau temps, la fête des pères, on a envie de partir.
Oui, mais au contraire, ça pourrait aussi se dire qu'avant de partir, on fait un petit geste civique. Non, mais ce qui est le plus embêtant, c'est pour la situation politique, c'est que ce sont les jeunes, évidemment, qui vont le plus s'abstenir. Donc, on voit quand même que le choix des plus âgés n'est pas forcément le choix des plus jeunes. Et en plus, ce n'est pas les militants qui s'abstiennent. Les militants, ils vont voter, ceux qui y croient vraiment. Donc, je trouve que c'est un vrai danger si on a 55 à 60% de... C'est un vrai danger.
Oui.
Pour relancer la démocratie en France.
En 2015, on était à 50% d'abstention. Marion Moore, comment vous expliquez cette poussée de l'abstention? 64%, ce serait énorme.
Malheureusement, ce ne sont pas que les jeunes qui ont envie de s'abstenir. On voit énormément, quand on est en reportage, de gens qui ne sont pas au courant qu'il y a des élections dimanche, qui ne savent pas les enjeux, c'est-à-dire quels sont les dossiers qui concernent la région ou le département. Alors, c'est un phénomène qu'on voit à chaque élection, mais là, qui prend de l'ampleur. Parce que c'est vrai que les gens sont encore dans la crise sanitaire, dans l'angoisse de perdre leur emploi ou pas. Mais en tout cas, c'est une des grosses inquiétudes de toutes les équipes de campagne qui sont incapables vraiment de faire des pronostics du fait de cette abstention et qui en viennent même à regarder la météo en se disant que s'il fait mauvais, peut-être que les gens bougeront moins et iront voter.
Je regardais, parce qu'on parle des jeunes, les chiffres dans les Hauts-de-France, par exemple, 77% des moins de 35 ans et parmi eux, 78% des 18-24 ans disent... ne pas aller voter.
Oui, moi je pense que c'est énorme, ça augmente quand même chez les jeunes, l'abstention, on dit que c'est habituel, mais c'est énorme. On comprend bien qu'ils ne connaissent pas bien les candidats, peut-être les compétences aussi des régions et des départements, c'est quelque chose, c'est compliqué, donc il y a un manque de communication là-dessus. Mais il y a aussi toutes les tactiques politiques dont on a parlé, ça dégoûte aussi un petit peu, on a l'impression qu'il y a d'autres choses qui se jouent que des enjeux locaux, donc peut-être que ça ne plaît pas forcément d'aller se mobiliser là-dessus. Mais je crois qu'il y a un point vraiment important, c'est que les jeunes, ils sont dans une situation post-Covid très compliqué. Ils pensent déjà à leurs études, à leur emploi, à boire des coups aussi, mais ça, c'est un peu plus facile maintenant, mais à la situation, à la rentrée, comment on gagne sa vie.
Il y a un élément, je vous le dis, que je ne comprends pas, je l'ai dit ici même dans les grandes voix, pourquoi ne pas moderniser le vote? Vous regardez une photo d'isoloir des années 50 et aujourd'hui ça se passe pareil. Le petit rideau,
mais le vote et les moyens de communication.
Vote à distance, non, vote mais
même les moyens de communication. On a bien vu que la séquence d'Emmanuel Macron, elle a marché chez McFly et Carlito, les deux youtubeurs. Ça a marché. Il y a plein de choses qui peuvent être faites sur les réseaux sociaux, mais on ne le fait pas du tout. La communication politique, elle se renouvelle pas énormément.
On a une vraie contradiction de la France parce que. On a sans arrêt des gens qui disent on ne vote pas assez, on ne s'exprime pas assez, on ne dit pas notre avis sur tel et tel viaduc, on ne sait pas, et qui, quand il y a une élection, n'ont pas compris que c'était la seule façon de se débarrasser ou d'amener au pouvoir d'autres gens.
Oui, mais il y a eu aussi des conventions citoyennes qui n'ont pas été forcément suivies d'actes très, très encourageants. La convention citoyenne sur le climat, elle a été très décevante. Elle a mobilisé.
Excusez-moi, heureusement,
elle a été décevante.
Heureusement,
je pense que ça fait partie des
sujets
sur lesquels les jeunes pourraient participer.
Sur les régionales, il y a quand même un manque de pédagogie. Moi, je regardais les enquêtes d'opinion. Il y a des jeunes qui disent « Je ne vois pas à quoi ça sert un conseil régional ou départemental. Si on m'avait vraiment parlé et expliqué, peut-être j'aurais pris le temps, ça aurait créé un déclic pour aller voter. » C'est vrai qu'il y a quand même un problème de pédagogie. Il y a 6 Français sur 10 qui ne connaissent pas, par exemple, leur président de région, Marion Mourgue.
Oui, alors je ne sais pas s'il y a encore des cours d'éducation civique à l'école, puisqu'avant, on nous expliquait aussi à quoi servait chaque collectivité. Mais le Sénat avait réfléchi pour moderniser aussi le vote.
Encore à l'école, je parle en connaissance de cause.
C'est pour ça que je pose la question.
On apprend à voter.
Voilà, on apprend les régions, on apprend les départements, on apprend le découpage territorial, on apprend tout ça.
Donc, normalement, ça devrait être su.
Mais on l'apprend en primaire. Donc, quand on a le droit de vote à 18 ans, c'est un peu oublié.
Il y a quand même une réflexion du Sénat pour moderniser le vote. Et c'est une réflexion qui n'avait pas été suivie par le gouvernement. Mais les parlementaires travaillent aussi dessus. Donc, il y a des choses dans les tuyaux. Si on veut aller un peu plus loin, et ça peut faire l'objet de la prochaine présidentielle, ça peut être une question qui est posée aussi.
Oui, mais la communication, c'est aussi de la répétition, et je pense que tous les acteurs locaux, justement, les collectivités, doivent répéter, doivent
montrer.
Mais ils
le font sur le terrain.
Oui, ils le font, mais pas encore suffisamment, parce que c'est pas des élections qui sont très rassembleuses, forcément.
Ça s'est vu qu'ils sont intervenus pendant la crise du Covid. Ceux qui sont intervenus, c'est les maires des communes et la région.
Oui, mais pas dans les modes de communication des jeunes.
Ils sont vraiment intervenus quand il a fallu acheter des masques en Chine sans le dire. C'est Christian Estrosi qui l'a fait. Ils sont intervenus et ça n'a pas laissé de trace.
On suivra ces chiffres évidemment avec beaucoup d'attention dimanche soir. Il nous reste quelques secondes. Ce matin avait lieu le bac de philo pour les lycéens. 3 sujets de dissertation. Lequel auriez-vous choisi? Je vous les répète. Discuter, est-ce renoncer à la violence? C'est un peu d'actualité ça d'ailleurs. L'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance? Sommes-nous responsables de l'avenir? Alors là... Émilie.
Le premier et le dernier me plaisent pas mal. La responsabilité vis-à-vis de l'avenir, parce que je pense qu'en effet, il faut pouvoir s'adapter à des choses qu'on ne connaît pas encore, donc adapter au changement climatique, des choses comme ça, et en même temps pouvoir essayer de prendre des décisions qui vont compter, donc préparer le monde pour l'avenir, pour nos enfants. Et puis le premier sur discuter pour renoncer à la violence. Je trouve ça intéressant parce qu'on a l'impression. l'impression qu'en France, parfois, il y a beaucoup de confrontations entre communautés, entre corporatisme et tout, qu'on n'arrive plus à discuter.
Michel,
et il y a beaucoup de l'égoïsme.
Vous auriez pris celui-ci ?
J'aurais pris ce sujet aussi parce que c'est vrai qu'on se dit, avec la discussion, on peut éviter la violence. Et puis, il y a aussi des violences verbales, maintenant, qu'on connaît. Donc, c'était le sujet qui s'imposait, quoi, d'une certaine façon, le sujet de l'actualité.
Et vous avez connu la politique où on était plus à fleurer moucheter qu'en se balançant des insultes à travers la figure.
Il y avait des beaux débats, quand même, aussi.
Il y avait des beaux débats.
Il vaut mieux. J'aurais fait les mêmes choix, surtout qu'en terminale, on lit peu Freud. Et pour parler de l'inconscient, il faut quand même maîtriser un peu cette œuvre.
Pragmatique. Merci Marion, merci à toutes les trois d'avoir participé avec moi aux Grandes Voix du jeudi. Merci.
Europe 1, Julien Bugier.
18h56, vous restez avec nous dans quelques secondes. Le journal, évidemment, 19h avec Isabelle Millet. Et puis le Club des idées. Et si les Cassandres avaient tort, l'économie rebondit alors qu'on nous prédisait un effondrement. On en parle avec nos invités. À tout de suite.